Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir pour cette rencontre autour du nouveau livre d'Éric Plamondon, Oyana, publié aux éditions Kidam, un livre qui paraît quasiment un an pile après ce succès littéraire, un précédent ouvrage qui est Akawan. Donc c'est la première rencontre que vous faites ce soir autour de ce livre. Donc,
Oui, je vais essayer de ne pas trop mélanger parce que voilà, encore la semaine dernière, je parlais de Akawan à Nancy, à Bourg-en-Bresse et à Langres. Donc là, ça va être une première. Il faut que je change de poisson.
Voilà,
c'est ça. Je passe du saumon à la baleine. Donc voilà, je n'essaie pas de mélanger.
Donc c'est une soirée historique ce soir, première de Oyana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quelle est l'origine de ce projet et finalement comment on passe du saumon à la baleine?
Alors l'origine du projet, ça remonte à mon arrivée en France il y a plus de 20 ans avec quelqu'un qui est ici ce soir, qui m'a ramené dans ses valises à une époque de ma vie à Bordeaux. Et le premier été que j'ai passé ici, on est allé en vacances au Pays Basque. Et à l'époque, j'étais en train de terminer mon mémoire sur Moby Dick, la baleine blanche de Melville. Et je me souviens de m'être retrouvé à Saint-Jean-de-Luz, assis au bord de la baleine, rue de la baleine, en buvant un cocktail baleine. Puis là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et j'étais en plein d'étudier ça. Puis déjà, Melville parlait un peu de Fontarabie, un petit peu, pas beaucoup. Mais voilà, j'étais là-dedans, j'avais déjà habité par la baleine. Et là, je découvrais toute cette histoire-là. Et le Pays Basque comme tel, plus le fait que c'était en 96, en fait, très précisément. Et moi, j'étais arrivé l'année avant d'arriver en France, j'étais à Toronto. J'avais vécu le deuxième référendum pour l'indépendance du Québec en 1995. Puis j'arrivais en France en 96. Puis là, je tombais au Pays Basque, donc je n'avais jamais entendu parler, où on me parlait encore d'indépendance. Moi qui arrivais en France, je me disais, voilà, c'est un pays uni, tout le monde parle français, c'est normal, c'était notre modèle, nous autres, pour les Québécois. Puis là, c'était bien plus compliqué que ça, finalement. Donc à partir de ce moment-là, je suis retourné souvent au Pays Basque, mais au-delà du coup de foudre avec le pays même, la mer, la montagne, les gens, la culture, mais je me suis dit, pendant 20 ans, je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre qui parle du Québec et du Pays Basque, et enfin il est là. Après une écriture, après de l'avoir écrit pendant quelques mois l'été dernier, je l'ai quand même écrit pendant 20 ans, et enfin il est là. Voilà la genèse d'Oyana.
Alors Oyana, c'est l'histoire d'une femme qui a dû quitter, donc qui est basque, et qui a dû quitter le Pays Basque, qui se retrouve au Québec, et qui, le jour de l'annonce de la dissolution de l'ETA, décide de prendre une décision qui va radicalement changer sa vie. Elle se dit « je vais enfin pouvoir rentrer chez moi et tout abandonner ».
Elle ne se dit pas vraiment « enfin je vais pouvoir ». Elle se dit… Enfin, pour elle, c'est l'élément déclencheur parce que c'est comme si… Ça fait 20 ans qu'elle vit un peu dans le secret puisqu'elle n'a pas pu raconter ça aux gens autour d'elle. Et dans sa vie montréalaise, elle a un peu comme une fausse identité. Et elle retient ça, elle retient ce secret-là. Et c'est comme si elle avait arrêté d'y penser, elle avait réussi à surmonter ça. Mais le jour où elle voit cette annonce-là dans le journal, c'est vraiment le barrage qui s'écroule, quoi. Et après, c'est la débâcle. Et là, la débâcle, ça va être la lettre qu'elle va écrire, ça va être la parole qu'elle va reprendre par rapport justement à ce secret-là. Donc je ne dirais pas que c'est voulu ou qu'elle a pensé vraiment retourner, elle ne sait pas. Mais ce moment-là fait tout basculer, quoi.
Et donc elle en profite pour écrire une lettre à son compagnon.
Donc elle va, c'est les mots qui vont, nous on va suivre l'histoire donc, par ces mots. Alors ça c'est aussi c'est intéressant. Comme je dis, c'est un projet que j'avais depuis 20 ans. Après, j'avais commencé à travailler dessus un peu, puis j'ai commencé, puis j'ai arrêté. Puis après, avant Akawan, j'avais peut-être déjà commencé à écrire quelques petites notes, d'une certaine manière, mais c'était rien de plus. Et quand j'ai eu fini Akawan, je me suis dit, bon, enfin, là, ça va être le temps d'écrire ce fameux livre qui va parler du Québec et du Pays Basque. Et il y a eu trois événements qui m'ont mené enfin à pouvoir le faire. Le premier, c'est qu'au début de l'année 2018, j'ai lu dans le Sud-Ouest qu'il y avait une baleine qui s'était échouée sur une plage du Médoc, au Pain Sec, si vous connaissez. Et donc là, je suis sauté dans mon char, puis je suis parti voir la baleine en me disant « voilà le signe que j'attendais ». Parce que j'avais déjà commencé à travailler là, une scène où il y a une baleine échouée. Et j'ai dit, voilà, je l'avais fait, que c'était pour l'instant que de la fiction pour moi, mais j'en avais jamais vu de baleine échouée. Puis j'avais déjà commencé à travailler le chapitre. Fait que là, je me suis dit, c'est bon, je vais aller la voir, je vais pouvoir finir mon chapitre. Puis le livre va commencer comme ça. Puis après, ben, ça tirait encore beaucoup. J'arrivais pas, j'écrivais un peu, mais c'était compliqué. Plus on pense longtemps à écrire, je pense, hein, c'est vraiment là, ça devient une montagne. Donc, c'est ce qui arrive au personnage d'Oyana dans le roman, mais c'est aussi ce qui m'est arrivé le 3 mai 2018 quand j'ai lu l'annonce de la dissolution de l'ETA. Je me dis, bon, ben là, j'ai plus le choix. Là. C'est le deuxième signe qu'il me fallait pour dire, t'es prêt à l'écrire et ça va être ça, le moment de ton roman. Autant il l'est pour le personnage, autant il a été pour moi en tant qu'écrivain. Quoi. Et à peu près au même moment, mon éditeur Kidam, éditeur qui avait publié en France Takawan, m'a vraiment appelé. C'était un moment où il me disait, oh, ça serait vraiment bien si tu avais quelque chose pour l'année prochaine à écrire. J'ai dit, bah, oui, justement, j'ai quelque chose qui est... Donc, vous voyez, ces trois événements-là, entre janvier et juin, ont fait que je suis passé à l'action. Donc, c'est là où la fiction et la réalité se mélangent un peu. Et j'avais pas, au début, voilà, j'étais absolument pas parti sur quelque chose d'épistolaire, quoi, hein. Et le coup de la lettre, ça a été assez génial parce que, avec la commande de l'éditeur, je dirais, je me suis vraiment retrouvé dans la frénésie d'Oyana quand tout à coup elle est obligée, elle est dans cette urgence-là de dire, et moi je me suis mis dans cette urgence-là d'écrire. Et à un moment donné, quand elle écrivait les lettres, j'ai pris un moment d'écriture assez long cet été où j'écrivais comme si j'écrivais aussi les lettres dans le temps vraiment présent, quoi. Il y avait vraiment un télescopage entre l'écriture de fiction et la réalité de ce que ça peut être d'écrire une lettre comme ça dans l'urgence pour un personnage pendant une semaine ou 10 jours. Voilà, ça c'est la petite cuisine, mais c'est ce qui a mené...
Non, mais c'est intéressant, parce que justement, ça se ressent à la lecture de l'ouvrage, en tout cas sur les parties épistolaires. Il y a vraiment à la fois une notion de temps d'écriture, de vie qui continue en même temps, puisqu'elle est interrompue, elle reprend même sur plusieurs jours, elle écrit la même lettre, mais qui est reprise à différentes heures, en fait, à différents moments, où elle doit faire autre chose, ou parce que son compagnon va rentrer, du coup, elle ne peut plus écrire sa lettre à son compagnon. Et donc, effectivement, ça se ressent vraiment dans la lecture. Et puis, en même temps, il y a une alternance sur différents registres, moi, je trouve à la fois très intéressant. Donc, il y a le côté épistolaire, Oyana qui écrit à son compagnon pour lui raconter son histoire, alterné avec des chapitres où on en apprend plus sur, avant sa naissance, ce qui s'est passé, là, avec un narrateur omniscient et un registre, somme toute, assez classique, et aussi des incursions de documents officiels ou de documents historiques ou de documents de presse qui s'intègrent parfaitement au récit, qui peuvent être des déclarations justement de l'ETA, des actes de réunion, ou en tout cas de tracts quasiment, une déclaration de Juan Carlos, roi d'Espagne, sur l'indépendance du Pays Basque. Comment on intègre justement ces vrais documents dans de la fiction pour que ça reste limpide et qu'on ne se demande pas si ce n'est pas juste des annexes ou des bonus, finalement, au récit.
Alors, la première réponse, ça serait de dire que j'ai toujours travaillé comme ça depuis mon premier roman. Donc, c'est vrai que c'est... Dans Oyana, je me suis dit, je vais le faire moins. Et puis, une fois de plus, j'ai été rattrapé par cette envie, justement, de fragments et de morceaux qui vont chercher du réel ailleurs que dans la narration pour rendre le livre plus riche, pour permettre toujours, moi, voilà, ce qui est important pour moi, la multiplicité des points de vue, donc pas juste être juste dans la fiction ou cette histoire-là, mais le réel qui se déroule en même temps aux côtés ou qui s'est passé dans l'histoire. Et la manière de les intégrer, c'est, enfin moi, mon truc, c'est pas mon truc, mais j'en mets beaucoup plus que ce que vous pouvez en lire dans le roman, en fait. J'en ai plein. Et à mesure que j'écris, et c'est vrai que même si celui-là, je l'ai écrit vite, dans vraiment la rédaction à proprement parler, j'avais déjà des fragments, beaucoup d'archives, en fait. Et petit à petit, le temps permet de décanter vraiment ce qui est le plus signifiant. Voilà, j'ai pas de recette, mais je parle souvent du montage vidéo, on a parlé tout à l'heure, soit qu'on est en retard parce qu'on a fait une petite vidéo pour le site de mon là, excusez-moi. Et ça fait partie d'un timing qui est assez... complexe, ressenti, c'est du feeling, ça bouge à mesure de l'écriture, puisque bon, y a le côté d'Oyana qui est narratif. Des fois, c'est des contrepoints qui viennent là pour mettre du rythme, mais qui doivent être aussi donc, oui, signifiants, mais j'ai pas de recette, quoi. Tant mieux si ça marche, mais après, je parlais de Moby Dick tantôt, et quand je parlais de Takawan à une époque, c'était ça aussi. Je veux dire, c'est ce que faisait déjà Melville dans son roman, en nous amenant des morceaux d'histoire, la représentation de la baleine dans la peinture depuis le Moyen-Âge, ou le squelette de la baleine, ou comment on harponne la baleine, comment on la dépèce, l'histoire de la baleine dans la royauté, ce que ça représentait pour les Gondwanas. Donc on part comme ça chercher, et ça enlève rien, au contraire ça englobe le monde. C'est pour moi c'est important. Enfin, moi je viens des études en sociaux, entre les rapports entre société et littérature, à quel point la littérature nous parle du présent, et donc c'est important d'aller chercher ces morceaux de réel là pour les mélanger, les déplacer, parce que des fois on a l'impression que c'est une vraie nouvelle, mais des fois j'en invente aussi, et puis des fois c'est juste c'est vraiment vrai, vraiment vrai, factuel. Donc tout ça se mélange et joue à déplacer justement entre la fiction, le réel, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à vous mélanger aussi, et je dis toujours à vous obliger en tant que lecteur à travailler et à penser vous autres aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a voulu dire entre les deux?
Alors oui, c'est vrai que le lecteur est très investi à la lecture de l'ouvrage, notamment aussi, sans révéler effectivement toute l'intrigue, mais parce qu'il y a une fin ouverte qui laisse une porte grande ouverte à la fin de l'ouvrage. Est-ce que ça aussi, c'est vraiment une volonté, un plaisir d'écriture, de se dire, là, je fais confiance à mon lectorat?
Toujours.
Et justement, en sachant que je sais exactement où je vais le mener, tout en lui donnant l'impression qu'après, il a le libre
choix. Je ne sais pas si je sais exactement, mais pour moi, c'est vraiment important de... Alors, comme je ne parle plus de Takawan, en plus, ça me fait drôle, parce que je prends moins mon accent québécois, alors que quand je parlais de Takawan, j'avais toujours cette phrase de prévu où je disais que vraiment, pour moi, un roman, c'était 50% de la job, c'est pour l'écrivain, mais l'autre 50% de la job, c'est pour le lecteur. Alors avec Oyana, c'est plus compliqué. Enfin, je le fasse avec l'accent, mais bon...
Basco-québécois. Bon.
Ouais, basco-québécois. Le R. Alors, c'était très important pour moi. Que le lecteur. Le lecteur. Donc, oui, de la même manière que la construction, je pense... Alors, c'était assez drôle. Au début, quand j'ai voulu... Vraiment, quand je me suis lancé dans ce truc épistolaire... En fait, au début, quand je voulais écrire Oyana, on la suivait de quand de sa naissance à son adolescence, à sa vie adulte. Je la suivais comme ça depuis Cibourg. Et à l'époque, je me souviens, les gens me disaient « Mais quand est-ce que tu vas écrire un livre qui se passe en France ?» Parce que mes autres romans, finalement, ont fini toujours à se promener au Québec. Et je disais, ben là, justement, je suis en train de travailler là-dessus, puis mon personnage grandissait, puis finalement, à page 50, à 22 ans, il prenait l'avion, puis il atterrissait à Montréal. Donc, j'étais encore pris pour arriver au Québec. Et donc, pour retourner le problème qui, pour moi, prenait des proportions un peu... m'échappait, j'ai dit, je vais tourner ça, je vais le prendre par l'autre bout. Elle a 45 ans, elle est déjà à Montréal, on n'en parle plus, voilà, est arrivée. Et maintenant, on va remonter dans ses souvenirs. Et c'est comme ça un peu que la lettre aussi s'est imposée, le côté où c'est elle qui doit raconter. Ce que je n'avais jamais fait aussi pour un personnage, ou me faire une... vraiment, voilà, on suit quand même, s'il y a des morceaux qui partent un peu partout, ça reste son histoire. Je voulais me concentrer là-dessus. Au début, voilà, je me disais peut-être même que je pourrais faire juste une longue, longue lettre. Mais bon, après, je me suis fait... vite faire attraper parce que j'aime faire. Donc, j'ai rajouté ce sur quoi j'avais déjà travaillé, et puis remonter le cours de l'histoire, remonter l'histoire des Basques, c'était important, enfin, c'était super nécessaire pour moi. Je pouvais pas faire ça sans cette perspective historique-là, mais je l'ai remis à ma sauce, quoi. Le fragment est vite revenu. Je l'ai chassé, mais il est revenu au galop.
Donc oui, est-ce qu'on peut évoquer justement ce lien très, très fort entre le peuple basque et le Québec, un lien historique, mais qui remonte en fait à...
Ouais, ben ça c'est... Alors c'est quelque chose maintenant, je pense, enfin, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, enfin, je parle peut-être en France, je ne sais pas, Mais au Québec, oui, parce que maintenant, il y a un musée basque à Trois-Rivières, il y a un musée basque à Côte-Nord. Terre-Neuve, on a retrouvé les anciens fours des Basques. On découvre les bateaux. Non, il y en a qui font des grands yeux, qui ne sont pas au courant. Ben, c'est bien. Mais bon, comme ça, j'en parle dans moi. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'avais pas appris ça à l'école. Hein. Nous autres, ça commençait l'histoire du Québec. C'était 1534, Jean Cartier qui arrivait. Il rencontrait les Indiens, plantait la croix. Puis l'histoire du Québec française, ça commençait là. Sauf que Jean Cartier était venu au Québec grâce aux cartes secrètes que les Basques avaient déjà en leur possession parce qu'ils venaient pêcher. Ils étaient venus pêcher la baleine jusque dans le fleuve Saint-Laurent, bien avant que Jean Cartier arrive. Puis c'est comme ça qu'ils avaient retrouvé, qu'ils ont croisé. Ils n'étaient pas venus au début pêcher de la morue. À la fin, ils venaient pêcher de la morue. Mais au début, ils pêchaient de la baleine. Et c'est comme ça qu'ils sont remontés le Saint-Laurent et qu'ils ont pendant un siècle au moins, découvert le Québec bien avant les autres. Et d'ailleurs, j'en parle pas tout à fait dans Takawan, même s'il est un petit peu question des Basques, mais les Micmacs, qui étaient les tribus de la côte Est, quand Jean Cartier est arrivé, avaient déjà des mots où on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, ce n'était pas vraiment de l'Indien, on ne savait pas ce que c'était, puis en fait, on a découvert que c'était du Basque, parce qu'ils échangeaient, ils avaient ils passaient l'été ensemble, en fait, parce que les Basques repartaient avant l'hiver, quand même, mais ils ne restaient pas sur place. Mais... Donc ça, c'est un autre pan d'histoire que j'ai mis bien des années à découvrir, à connaître, à m'informer là-dessus. Et puis, à force d'y aller, si vous allez encore aujourd'hui à l'autre côté de juste avant Saint-Sébastien, comment ça s'appelle? À Pasaya, il y a là, dans la baie, un musée où ils sont en train de reconstituer un des premiers baleiniers basques dont l'épave a été retrouvée sur les bancs de Terre-Neuve. Et ils sont en train de le reconstruire pour refaire une traversée. Enfin, voilà, c'est... Mais il y a 20-25 ans, en tout cas, moi, dans mon histoire québécoise, comme on dit au Québec, ça ne se parlait pas. On n'était pas au courant de ça. Donc, une fois que j'ai mis à tirer ce fil-là, c'était super intéressant. Encore un nouveau lien. En plus de la baleine, enfin surtout à cause de la baleine.
Oui, voilà, il y a toujours ce lien.
Il y a toujours cette baleine.
Qui est présente à différents moments en fait du texte, puisque effectivement.
Même sur la couverture.
Elle est présente sur la couverture. Elle est présente dans l'enfance d'Oyana, puisqu'elle va voir une baleine échouée et qui est une image qui restera gravée en fait dans sa mémoire. Et il y a effectivement toute l'histoire donc des baleiniers basques qui. Commencent eux aussi grâce à une baleine échouée qui vont découvrir en fait qu'ils peuvent pêcher la baleine. Les baleines au bout d'un moment qui se disent on va un peu s'éloigner de la côte parce que là visiblement ça commence à être un peu compliqué pour nous, qui les oblige à remonter jusque dans la Manche et puis après à traverser l'océan en fait parce que c'est le même océan finalement entre les deux. Et puis la baleine revient, ou en tout cas on ne la voit plus, mais elle est toujours présente. Et moi j'ai vu ça un peu comme une métaphore, où Oyana revient donc au Pays Basque et retrouve la plage sur laquelle elle avait vu la baleine échouée, et qui n'est évidemment plus là 25 ans après. Et quand elle pose la question justement à un des pêcheurs locaux, il lui dit « Vous savez, des baleines, je ne sais pas si vous en trouverez encore par ici. » Et j'ai vu ça un peu comme une métaphore finalement de l'ETA, ou en tout cas d'une époque qui serait presque terminé, un peu conclu, ou qui est toujours là, une espèce de léviathan qui serait présent dans les esprits, mais plus forcément visible.
Et c'est ça qui est beau avec la baleine, c'est sa force symbolique. Je parlais de Melville tantôt, mais ça remonte bien avant. Donc moi, c'est comme ça que je l'utilise aussi. Après, à chaque lecteur d'y mettre ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est une bête. Ça rappelle un bestiaire qui tire encore pareil plein d'autres fils quoi dans l'imaginaire, dans une sorte de mythologie. Et bien sûr, un symbolisme assez très très riche quoi. Donc oui, elle est toujours là. Vous avez le droit d'y mettre tout ce que vous voulez. Et c'est en même temps parce que la baleine révèle tout, elle cache tout et elle révèle tout. Bon, puis c'est quand même Oyana, c'est quand même une histoire de secret justement. Et je me souviens de Melville quand il parlait de la baleine, qui disait, en norvégien ou je sais pas dans quelle langue du Nord, le whale venait d'un espèce d'autre mot qui voulait dire wall, mais qui était aussi le wall, le mur. On voyait passer, essayer de comprendre la baleine, d'aller au-delà de sa signification. C'était aussi une traversée du mur, quoi, une traversée du secret, de ce qui était caché. Donc il y a aussi beaucoup de ça, je pense, dans la baleine d'Oyana.
Très bien.
Pas mal, ça.
Oui, c'est très bien.
Parce que c'est la première fois là, que j'en parle ce soir, donc c'est tout nouveau. Je vous disais, autant j'ai parlé de Takawan, autant là, Oyana, je découvre ce que je suis en train de vous dire. Comment ? Il faut pas parodier, mais c'est, voilà, c'est, chaque question est...
C'est une première pour moi aussi. Il y a évidemment, donc, il n'est pas que question de baleine dans ce texte-là. Il est question de rapport à l'identité. Parce qu'effectivement, bon, le personnage d'Oyana, petite fille basque, se retrouve à vivre au Québec en inventant sa propre histoire pour les personnes qu'elle rencontrera dans le futur, qui passe par le Mexique et qui s'invente, en tout cas à qui on invente une famille et une vie mexicaine. Ce rapport à l'identité, il est aussi lié à la langue. Alors que ça soit le québécois ou que ça soit le basque, et finalement en fait à l'appartenance à un lieu. Voilà, il y a plusieurs questions dans une seule, mais sur l'identité, il y a un passage où elle dit quand elle quitte finalement le Québec, elle est en voiture et elle voit des maisons et elle se dit tiens, ça me fait quand même penser aux maisons que je voyais étant petite au Pays basque. Et malgré tout, même si j'ai passé plus de temps au Québec qu'au Pays basque, je m'y suis jamais senti chez moi parce que je n'y ai pas grandi. Et est-ce que finalement l'identité, c'est juste ça en fait, c'est l'endroit où on a grandi, l'endroit où on s'est construit, ou est-ce qu'on peut pas se reconstruire une identité ailleurs?
Effectivement, le livre pose la question. Je pense pas qu'il y réponde, mais c'est vrai que cette question, quand tu te poses cette question-là, ça me renvoie à un texte que j'avais lu en écrivant, enfin un peu avant d'avoir écrit Oyana, un texte de Roland Barthes qui a justement grandi un peu dans le Pays basque, pas loin de Biarritz, je me souviens bien. Et qui. Comment ? Voilà, ben c'est ça, non ? C'est ou Bayonne ou Biarritz ? Par là-bas, quoi. Et c'est un très beau texte, j'ai plus le titre, mais si vous trouvez. Texte, Roland Barthes, je ne sais pas quoi, pour le trouver, qui se concluait sur cette phrase qui a failli ouvrir Oyana, mais finalement non, je l'ai gardée pour plus tard, mais qui dit « Il n'y a de pays que l'enfance ». Et pour moi, ça résumait vraiment ce sentiment, de la même manière que j'ai l'impression, je dis souvent, quand plus on vieillit, plus on rêve, plus on vieillit, plus quand on rêve, ça nous ramène à notre enfance. Enfin, moi, je sais que plus le temps passe, plus je rêve de chez ma grand-mère quand j'étais petit gars ou de ma maison d'enfance. Alors, pas du tout, mais là où j'ai grandi en tant qu'adolescent, tu vois. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose sur le fait que il y a quand même. Je ne sais pas en dire, enfin, on sait quand on a des enfants, quand 0 ou 3 ans, ils jouent déjà beaucoup de choses, mais en tant qu'individu, voilà, entre 0 et 5 et 0 et 10, c'est vraiment des fondations. Donc, c'est vrai que. Alors, ça n'empêche pas de vivre ailleurs, mais c'est sûr que ce fond-là sera toujours là. Quoi.
Et sur le rapport à la langue hein?
Ben oui, alors moi...
Parce qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, oui. entre l'identité basque avec les panneaux, les panneaux bilingues, et la même chose qui est au Québec, c'est un truc que retrouve...
Jusqu'en 80, au Québec, on avait, mais heureusement, on a eu la loi 101 qui a interdit... Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces histoires, mais en 80, la loi 101 du gouvernement québécois, c'est vraiment d'interdire les panneaux bilingues, donc c'est que en français. Et puis, 10 ans plus tard, il va y avoir une grosse polémique parce que là, on va autoriser, parce que par rapport à la Charte des droits et libertés, on n'a pas le droit d'interdire l'anglais. Mais par contre, la loi va dire qu'il faut que les lettres en anglais soient 80% plus petites que les... Donc, tout le monde est là avec sa règle dans les vitrines pour savoir s'ils ont le droit de mettre ça en anglais. Donc, voilà, on est un peu dans des questions un peu complexes. Mais oui, c'est comme je disais tantôt au début, ça me fascinait, effectivement, cette histoire de l'anglais, alors que tel... Enfin, surtout en arrivant du Québec, quoi, pour qui la langue française était si importante. Et effectivement, c'était vraiment le nerf de la guerre au Québec dans les années 80. Et la première chose qu'on défendait, au-delà de la culture, enfin la culture, on sentait vraiment que la culture, ça passait par, c'était la langue, il fallait écrire en anglais, bon, on parlait en joual, on revendiquait le québécois aussi, au-delà de juste le français, mais les chansonniers québécois qui sont venus en France, c'était quoi? C'est parce qu'ils étaient francophones, c'était... Voilà, puis c'est vrai, la question de la langue, c'est d'autant plus vrai, puis moi je l'ai expérimenté, je disais tantôt qu'avant d'arriver en France, j'habitais un an à Toronto, j'ai vécu un an à Toronto, et j'étais au Canada. J'arrivais de Montréal, j'ai fait Montréal-Toronto, Toronto-Bordeaux. Ben, quand je suis arrivé à Bordeaux, l'air de rien, j'avais l'impression qu'il y avait moins de différence pour moi entre Montréal et Bordeaux qu'entre Montréal et Toronto, parce qu'on parlait français. Et parce que, voilà, quand j'étais à Toronto, si je parlais à quelqu'un de Georges Brassens, ils n'avaient jamais entendu parler. Mais quand j'arrivais en France, ben, tout le monde le connaissait. Donc, voilà, toi, le côté, ça va très loin, quoi, cette histoire de langue. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais plus. Je sais plus.
Après, il est beaucoup question d'indépendance et d'indépendantisme, et c'est là aussi où les deux groupes se rejoignent, que ce soit le TA ou que ce soit le FLQ, qui est aussi évoqué dans l'ouvrage, de manière beaucoup plus discrète, qui arrive un peu comme une espèce aussi de fantôme passé, puisque dissous depuis plus longtemps que le TA. Du coup, moi, ça m'a permis de découvrir, à la lecture de cet ouvrage, un peu toute l'histoire tourmentée en fait, de l'indépendantisme québécois, qui n'est pas du tout, là, pour la peine, enseigné en France, parce que c'est vraiment une province très, très éloignée. Et, on parlait tout à l'heure dans la vidéo de cousins et de grand-oncles, mais effectivement, autant l'histoire de l'ETA beaucoup plus présente dans le Sud-Ouest, donc effectivement, avec des repères beaucoup plus marqués, autant ce qui s'est passé au Québec reste une espèce de flou absolu, en tout cas pour ma part. Et justement, en fait, comment, donc toi qui as grandi avec cette culture-là, qui arrive dans le Sud-Ouest et qui découvre ce qui se passe avec l'ETA et ce qui s'est passé, puisque Oyana, c'est vraiment une histoire... par la petite histoire en fait de l'ETA, mais aussi une histoire de la violence, des violences subies et faites, subies à d'autres. Et justement, ce rapport à la violence dans le texte que je trouve très intéressant, c'est qu'à aucun moment, en fait, il est clairement ni justifié, ni même excusé, ni même condamné, en fait. Chaque personnage a une raison, en fait, d'utiliser les armes qui lui sont données. Est-ce que tu t'es posé une question justement de comment traiter ce sujet-là du terrorisme, de parler d'attentats qui se préparent, d'attentats qui sont subis, sans tomber dans une espèce de manichéisme ou de condamnation ou d'apologie totale?
Pour moi, c'est pour ça que je suis ni sociologue ni historien, que je suis écrivain et romancier, c'est justement pour pouvoir traiter ces questions-là autrement. Et je pense que la force du roman, c'est justement de pouvoir englober tout ça, tous ces points de vue qui évitent, je reviens à ce que je disais tantôt, non pas de proposer, non pas de donner une réponse, mais de poser des questions. Donc je pense que le manichéisme, tant mieux s'il est évité dans ce sens-là. Et après, pour le rapport à ce qu'est telle indépendance et les rapports qu'il peut avoir entre l'ETA et le Québec. C'est vrai qu'en arrivant du Québec, moi, ayant grandi au Québec, l'histoire indépendantiste, mes parents étaient indépendantistes, donc ils étaient impliqués dans les années 80, etc. Mais la FLQ, c'était le Front de libération du Québec dans les années 60. Avant ça, il y avait eu aussi la révolution de 1837, la révolution des patriotes. Mais pour ça, pour nous, enfin, de Québécois, quand dans notre cours d'histoire et dans notre histoire en général, c'était super important. Là, je veux dire, ça nous définissait aussi vraiment en tant que Québec francophone, notre province de Québec. Il y avait eu des vrais mouvements de colère et de contre les Anglais. Donc, dans ce cas-ci, c'était quand même contre l'envahisseur britannique, surtout au 19e siècle. Au 20e siècle, c'était plus tout à fait, on ne peut plus l'appeler vraiment comme ça, bien que ça se sentait comme ça. Et la mythologie, la glorification de tout ce qui était lié à ça, c'est dans l'histoire du Québec, c'est super important, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très gros, alors que l'histoire du FLQ, ils ont enlevé le ministre du Travail en 70, la crise d'octobre. Et le ministre est décédé, mais ils ne l'ont même pas tué, c'est parce qu'il était un peu blessé, ils l'ont mis dans le coffre d'une voiture, et c'est les flics qui ont laissé le mec dans le coffre de la voiture pour pouvoir dire après que les terroristes l'avaient tué. En tout cas, bon, il y a plusieurs hypothèses, mais on a un mort. Et j'arrive en France, et là, je découvre un autre mouvement qui a un peu les mêmes revendications, au niveau de la langue, du territoire, de la culture. Mais moi, déjà du Québec, j'en ai jamais entendu parler. Et plus j'en entends parler, plus je découvre ce que c'est. Je me dis, nous, nos histoires d'indépendantistes au Québec, là, c'est peanuts comparé à tout ce qui s'est passé. Alors que dans notre vie, politiquement et symboliquement, c'est très, très... Et ça aussi, ça me travaille, tu vois, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on raconte. Et c'est ça qui est intéressant après sur ce rapport à la réalité, que la réalité en elle-même, elle n'existe jamais. C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en dit. Et justement, on n'en disait pas grand-chose. Enfin, des gens que je connaissais ici, j'en ai jamais... C'est toujours resté un peu mystérieux, même les gens. Il y a des gens qui sont du Pays Basque ici, je le sais. Mais on ne parlait pas de ces questions-là. Enfin, on parlait que du Pays Basque ou des Potiocs où on faisait des blagues, mais... je voyais bien que c'était compliqué. C'est caché sans être caché. On ne sait jamais de quel bord on est. On ne peut pas trop en parler. Parce que c'est énorme. Alors que chez nous, tout le monde en parlait, alors que finalement, ça n'a pas été très grave et ça a été très en douceur. Après, ensuite, à la Révolution tranquille et le référendum de 80, une fois que le référendum, on a fait un référendum, on l'a perdu. Bon, on est un peu pas. C'est autre chose. Il y en a une autre en 95, est-ce qu'il y en aura un troisième, je ne sais pas. Mais bon, voilà, tu vois, ça n'a rien à voir. Enfin, donc voilà, c'est aussi cette manière de revendiquer ou qu'est-ce qu'on raconte sur cette réalité-là qui m'intéressait aussi, et moi de le raconter par un personnage qui savait pas trop aussi, qui a le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc voilà.
Oui, puis un personnage surtout qui évolue au fur et à mesure du récit, puisque...
Oui.
Bon, je pense qu'on peut en parler, en fait, mais son père... Non,
je sais pas. Je sais pas ce que tu vas dire.
Sur son père, c'est un peu le premier, finalement, le premier secret en fait qu'elle découvre, c'est que la personne qu'elle croit être son père n'est pas son père et que son père est un terroriste responsable d'un attentat qui a été
fondateur.
Voilà. Et on sent que il y a même pas de fascination par rapport à ça. Jusqu'à un autre élément fondateur pour le personnage d'Oyana, qui est une arrestation arbitraire qui se passe très très mal, et le décès d'un de ses amis. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide d'embrasser un peu la cause et justement de se rapprocher de militants beaucoup plus belliqueux.
Oui, enfin, c'est même pas presque pas justement de l'ordre de la décision, c'est de l'ordre de peu importe qu'on peut croire, ce qu'on peut penser, à un moment donné, les faits nous rattrapent, la vie nous rattrape, il y a des choses qui se passent et on ne peut pas y rester complètement froid ou innocent. À un moment donné, on a un peu pas le choix, quoi. Et donc ça, c'est le côté... C'est ce qui désamorce souvent quand on parle de politique, etc. Tout le monde a son idée, son côté, brandit son machin. Mais des fois, quand on creuse, on se rend compte que, à l'époque que j'étais au Québec, j'étais plutôt indépendantiste, souverainiste. Mais en fait, si je creusais, c'est parce que je venais de ma famille, était déjà là-dedans, et j'ai grandi là-dedans. Bon, ça aurait pu être complètement l'inverse, mais ça aurait été pareil. Ça aurait été à cause de ça, puisque ça aurait été un refus de l'adolescent qui dit non, ça ne serait pas comme ça. Mais des fois, ça dépend pas de grand-chose, hein, comment ça tourne, comment les choses se font. Donc, je pense que dans le roman, c'est assez clair que les chemins sont multiples et que tout à coup, une petite étincelle qui fait que ça débarque de ce côté-là. Donc, on est toujours sur une corde raide, en fait, de la même manière que quand elle découvre Rock, c'est la fin de l'ETA, ça la fera basculer. Donc, on est toujours dans des petits basculements comme ça qui ne sont pas de l'ordre de la grande déclaration et la grande prise de conscience, mais non. Et parce que je pense que souvent, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Dans la vie, on rencontre des gens, on a des situations, et puis... rendu à un certain point, on peut se retourner et dire voilà, j'ai fait tout ça à cause de ça, mais sur le moment, je pense pas qu'on en soit très conscient. C'est quelque chose que je touchais déjà dans mes premiers livres où je parlais, dans un qui parle de Steve Jobs, qui disait à la fin de sa vie, l'important c'est connecting the dots, on connecte les points en fait, mais sur le moment, les points, on les voit pas, quoi. C'est qu'après qu'on peut faire le dessin global. C'est presque une conclusion, ça.
Mais c'est presque une conclusion. J'allais te proposer, justement, si tu le veux bien, de nous lire un passage de ton choix, si ça ne te dérange pas.
Alors là, j'ai aucune idée. Comme c'est la première fois... vous avez la chance, parce que c'est quand même, en général, des courts chapitres. Ça me fait plaisir, mais je... Je ne sais pas du tout lequel. ah Ah ouais, sans donner de punch. Il ne faut pas que je donne de punch. Il ne faut pas que je lise une coupure de presse parce que ce serait dommage. Ah, c'est une bonne question, ça. Hein? Lire un passage. Oui, le début, c'est déjà trop, mais... c'est pas assez. Voilà, voilà. Tunnel. Enfin, je vais vous lire, c'est le premier, parce que quand je disais que j'avais commencé à écrire l'histoire, ce texte-là, qui n'est pas tout à fait au début, mais c'est quand même le premier truc que j'ai écrit dans l'idée de faire ce roman. Donc voilà, ça s'appelle Tunnel. Et je vous le lis. Les trois hommes se relaient toutes les heures dans l'étroit conduit pour creuser. Au fond du trou, Iban pense à la femme qu'il a quittée pour venir ici se battre pour la cause. La femme est enceinte. Elle accouchera avant la fin de l'année. Lui doit creuser. Il faut que le tunnel atteigne le milieu de la rue Claudio Coelho pour ensuite y entasser un maximum de dynamite, 2 mètres sous la chaussée. Les trois hommes procèdent avec la plus grande prudence. L'opération dure depuis des mois, mais on touche au but. On connaît l'emploi du temps du premier ministre par cœur. Il emprunte cette rue chaque matin après une visite à l'église Saint-François di Borgia. Il commence toujours sa journée de travail par une prière. Le détonateur est connecté. Les trois hommes ont préparé leur fuite dans les moindres détails. Ils changeront de véhicule à mi-chemin pour semer d'éventuels poursuivants. C'est bientôt Noël. Mika, déguisé en électricien, tient le détonateur. Iban guette la rue, prêt à donner le signal. Yon, au volant de la Fiat, laisse tourner le moteur. La luxueuse Dodge Dart approche. Au moment où elle atteint la zone fatidique, Iban donne le signal. Mika active le détonateur et la force de l'explosion fait s'envoler vers le ciel le premier ministre, son garde du corps et son chauffeur. Le souffle est si puissant que la voiture blindée est projetée à 30 mètres dans les airs au-dessus d'un immeuble et s'écrase dans la cour intérieure du couvent voisin. La poussière n'est pas encore retombée que Yon, Mika et Iban sont déjà loin. Carrero Blanco agonise, le garde et le chauffeur sont morts. Au même moment, alors que l'ETA vient de réaliser l'attentat le plus spectaculaire de son histoire, une femme donne naissance à une petite fille. Nous sommes le 20 décembre 1973. Oyana vient de voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si... Ce qui est dangereux quand l'intervieweur pose des super bonnes questions, c'est qu'on trouve toujours ses réponses moins bonnes. Je préfère avoir des mauvaises questions, comme ça j'ai l'air intelligent quand je réponds, alors que là, tu vois, c'était compliqué. Là.
Mais pour le prochain, on fera ça.
On fera ça.
On fera ça. Merci beaucoup. Très bonne soirée.